Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, 23e pour cette 8e saison. Notre invité est aujourd'hui le sénateur Sébastien Pla, sénateur de l'Aude. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur le sénateur, alors, vous avez été élu en septembre 20, donc ça fait grosso modo un an et demi, donc ça fait déjà un certain recul. Lorsque vous avez été élu, vous aviez derrière vous une longue carrière d'élu local. Vous avez été maire d'Uyac-Peyre-Pertuse, conseiller communautaire. Enfin, donc, vous étiez dans le milieu et vous êtes entré dans cette grande assemblée, le Sénat, qui reste méconnue et même parfois diversement appréciée par les auditeurs. Alors, nous comptons sur vous à Radio Bark, monsieur le sénateur, pour nous apporter un peu plus de lumière et expliquer ce qu'est cette assemblée. Il faut dire que comme elle est élue par un suffrage qui est au deuxième degré, on a parfois du mal à comprendre. Mais rappelez-nous quand même, Sébastien Pla, quel est le rôle essentiel du Sénat en France et dans les démocraties en général, d'ailleurs.
Le Sénat est injustement critiqué, en fait. C'est aussi un petit peu sa faute, puisque il a cultiver le culte du secret pendant très longtemps, et donc les gens ne savent pas trop ce qui se passait et à quoi ça servait, malgré des cours d'instruction civique quand même à l'école et au collège.
Oui, mais c'est abstrait, mais, ça. Après, il y a le rôle des médias, peut-être.
Mais la réalité est tout autre, c'est que bon, aujourd'hui, nos démocraties, notamment européennes, et notre République fondée sur le bicamérisme, les deux chambres, la chambre des députés et la chambre des sénateurs, donc les députés qui, eux, sont élus au suffrage universel direct, donc nous allons avoir les élections au mois de juin prochain, donc par l'ensemble des citoyens, donc chacun choisit son représentant au niveau national, et effectivement les sénateurs, eux, sont les élus des territoires, de la chambre des territoires, en charge de représenter les collectivités locales qui fondent notre République, les communes, les communautés de communes, les départements, les
mais,
régions.
Mais pour les députés, il y a une grande visibilité, mais y compris médiatique, ce qu'il n'y a pas pour cette élection sénatoriale. Alors déjà, vous êtes élus, vous, les sénateurs, par ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire des gens qui sont déjà élus.
Oui, par les maires, par les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, qui déjà, eux, sont légitimes, puisqu'ils sont élus au suffrage universel direct. Donc, indirectement, notre légitimité, nous la tenons de...
Oui, et représentativité également.
Oui, oui. Mais sinon, le travail est quasiment le même que celui du député, puisque nous sommes là pour fabriquer de la loi, pour travailler des textes de loi, pour les amender, pour les modifier, dans l'intérêt de nos concitoyens, de notre pays. Mais il y a une mission importante que l'on ne met pas assez en avant, du Sénat, et c'est pour ça que le Sénat est souvent très critiqué, notamment par les différents gouvernements, depuis le général de Gaulle. Le Sénat, on va y revenir sur la question du clin d'œil du général de Gaulle, mais la mission principale du Sénat est de contrôler l'action du gouvernement. C'est quelque part le gardien du temple de notre République.
Oui, donc contrôle du gouvernement, ce qui est un des éléments fondamentaux d'un fonctionnement démocratique.
Tout à fait. Nécessaire.
Nécessaire, indispensable. Oui.
Nécessaire. Le Sénat pratique l'art du compromis en permanence. Moi, c'est ce que j'étais allé chercher là-bas. Au lieu de se retrouver dans des confrontations permanentes, stériles et dogmatiques entre les différents partis politiques et mouvements politiques, ce que l'on a à l'Assemblée nationale, c'est flagrant, puisque tous les jours, tous les mercredis, vous voyez la manière dont les députés s'accrochent. Bon, ça fait vendre du papier, ça après à la presse, mais nous, nous travaillons dans le consensus, la recherche permanente du consensus, quels que soient les partis politiques. Et donc forcément, ça intéresse moins la presse, parce que c'est beaucoup moins spectaculaire. Voilà. Mais ensuite, évidemment, les gouvernements divers et variés depuis très longtemps, quelle que soit leur orientation politique, ont toujours vu le Sénat, cette espèce de poil à gratter, cette assemblée qui va chercher des poux et qui vient de temps en temps nous poser des questions sur des sujets pour lesquels nous ne voudrions peut-être pas trop communiquer ou savoir. Je vais prendre un exemple très important et très flagrant récemment. Le Sénat a engagé une paire de commissions parlementaires qui ont été heureusement relayées par les médias, une importante qui vous concerne, c'est la concentration des médias. Mmh. Concentration des médias, sénatrices et des sénateurs socialistes et de droite ont auditionné Bolloré, qui aujourd'hui est en train de bâtir un empire médiatique important et qui est en train de tenir l'intégralité des médias français en voulant acheter des maisons d'édition, en plus des différents médias nationaux qui construisent aussi une pensée unique en politique. Donc c'est très dangereux pour une démocratie que l'ensemble des médias soit détenu par une seule personne. Donc le Sénat a lancé cette commission d'enquête justement pour mettre en lumière cette problématique-là, les dangers, et tenter d'y apporter des solutions législatives. Plus récemment, un sujet qui gêne le président de la République, c'est la question des cabinets de conseil. Le coût est exorbitant, effectivement.
Alors, tout n'est pas. Le nom célèbre aujourd'hui, c'est McKinsey.
Oui, et pourtant, McKinsey n'est pas le cabinet pas le seul, de conseil. Ça. Oui, en tout cas, celui qui a touché le plus de dividendes et de revenus de la part du gouvernement ces dernières années. Il y a des cabinets français qui ont gagné beaucoup plus d'argent que McKinsey, qui paient les impôts en France. Mais effectivement, McKinsey ne paie pas d'impôts en France. Donc, bon, on focalise le débat là-dessus. Donc, la question qui est posée, pourquoi avoir recours autant à des cabinets de conseil privés, alors que nous avons une haute fonction publique de grande qualité et énormément
des gens qui sont et payés et qualifiés pour ça.
Tout à fait. La question, en fait, elle est là, plutôt. Donc, voilà, le Sénat a lancé cette commission d'enquête pour vraiment la mettre à jour. Alors, certains viendront reprocher à la sénatrice communiste qui a lancé cette commission d'enquête son timing pré-électoral, en expliquant que c'est une volonté de déstabiliser la candidature du président Emmanuel Macron, à 15 jours, 3 semaines de sa réélection annoncée partout et par tous les médias. En fait, la demande a été faite l'année dernière. C'est pas une opportunité. L'affaire Benalla a été, elle aussi, soulevée par le Sénat. Et tout le monde a vu les images à la télé. Donc, c'était pas veille d'élection. La question de l'absence et du manque de masques et de stocks stratégiques pendant le Covid au début, quand on nous a raconté qu'il fallait pas porter de masques au début de la pandémie, c'est qu'en fait, il y avait pas de stock.
Oui,
voilà. Donc, on a mené une commission d'enquête, le Sénat, qui a mis en lumière certains défauts et certaines problématiques. Donc oui, le Sénat est très utile dans ce travail-là de contrôle.
Seulement, c'est un poil à gratter pour le gouvernement, mais ça ne devrait pas l'être pour le peuple, puisqu'il aide à dévoiler un certain nombre de choses. Et pourtant, combien de gouvernants, et on a évoqué le général de Gaulle, qui s'est planté, on peut dire, en 1969, là-dessus. Il est parti, battu sur un référendum, dans lequel, notamment, il voulait supprimer le Sénat.
Tout à fait. Ouais. Mais moi, je pense que c'est l'image que c'est mal à dire, hein, que les médias disent conventionnels, transfert auprès de la population du Sénat. C'est une image biaisée. Alors que la population qui s'intéresse à la vie publique et à la vie de notre pays comprend très bien l'intérêt de garder et de conserver, surtout de soutenir ces sénateurs. Alors, les collectivités, les maires, là, n'en parlons pas. Moi, je rencontre énormément de maires sur le terrain et tous me disent « Heureusement que vous êtes là. Vous êtes vraiment là. Vous nous représentez, vous nous défendez et vous mettez en lumière les problématiques de manière non pas pour embêter les gouvernements en place, pour améliorer la situation sur des sujets divers et variés. Nous faisons notre travail. Nous ne nous reprochons pas de ne pas faire notre travail. Vous savez, des auditions sur des missions d'enquête, j'en ai fait quelques-unes, vous passez des mois, c'est des missions d'enquête durent 2, 3 mois, 4 mois. Je participais à une mission d'enquête sur l'impact du Covid dans l'économie auprès des entreprises. Écoutez, la mission d'enquête a commencé il y a à peu près un an et demi lorsque j'ai été élu. Nous n'avons toujours pas terminé. Et au fur et à mesure, nous avons fait un certain nombre de propositions qui ont été reprises dans le projet de loi des finances pour améliorer le soutien aux entreprises au fil de l'eau en fonction de la situation et de la conjoncture liée au Covid. Donc c'est un travail de fond, de longue haleine, qui prend beaucoup de temps, qui est minutieux, qui est sérieux et forcément pas intéressant parce que c'est très compliqué à expliquer. C'est pas spectaculaire, mais sur le fond, c'est très important.
Oui. Donc finalement, le Sénat en arrive à jouer le rôle que certains médias devraient jouer pour faire la lumière sur certaines choses plus ou moins troubles dans la République.
Bien sûr. Mais bien souvent, le Sénat lance des commissions d'enquête après que certains médias ou journaux ou émissions de télévision sortent des scandales. Parler d'Orpea, par exemple.
Ah oui.
Suite à Orpea, le Sénat diligentait de suite une commission d'enquête autour de du scandale des EHPAD. Voilà, donc on est dans notre rôle. C'est pas l'Assemblée nationale qui le fait. C'est pas son rôle.
Et l'avantage, c'est qu'on ne peut pas faire pression sur le Sénat comme on peut le faire sur certains médias, par exemple, ou certains journalistes.
Exactement. Donc, comme on ne peut pas faire pression directement sur le Sénat, à part en essayant de manipuler l'opinion publique en y expliquant que ça ne sert à rien, que ça ne sert à rien le Sénat, l'autre solution, ben, c'est d'éviter de trop communiquer sur ses affaires et sur ce qu'il fait. C'est le cas.
Et alors, le Sénat joue un rôle également, alors vous le rappeliez, Sébastien Pla, au début, c'est de faire de la loi, comme les députés. Alors, il y a un système de navette, c'est-à-dire qu'on discute d'une loi à l'Assemblée, puis elle va au Sénat, elle revient, enfin, système de navette, mais on a l'impression, là encore, mais j'imagine, vous allez le démentir, on a l'impression que c'est les députés qui ont le dernier mot.
Le fonctionnement, justement, du bicamérisme est basé là-dessus. C'est-à-dire que les députés ont le dernier mot parce qu'ils sont les représentants directs du peuple. Donc, le peuple a le dernier mot. Et pas les sénateurs. Cela dit, ce que je constate, hein, un an et demi que j'y suis, je parle de ce que je sais. En un an et demi, veille d'élection présidentielle, le gouvernement a voulu faire passer beaucoup de lois. Et en plus, nous avons été obligés de travailler sur des lois d'urgence liées à l'épidémie du Covid. Bon, donc durant cette année et demie, 85% des lois qui ont été définitivement adoptées l'ont été en commission mixte paritaire. C'est-à-dire que le gouvernement propose une loi, l'Assemblée nationale l'amende, la modifie, l'ajuste. Ce texte ajusté vient au Sénat en première lecture. Nous l'amendons, nous l'ajustons, nous le modifions. Et ensuite, les deux chambres se réunissent. 15 représentants de chaque chambre se réunissent, chacun son texte, et on discute sur les ajustements apportés des uns et des autres pour trouver un compromis. Dans 90% des cas, nous trouvons ce compromis avec les amendements et les modifications du Sénat. Dans 10% des cas, quand il n'y a pas d'entente, ça revient en seconde lecture à l'Assemblée nationale et les députés ont le dernier mot. Donc vous voyez que c'est pas inutile et que la loi telle qu'elle est, dans 90% des cas, elle est faite et appliquée avec les propositions et les amendements portés par le Sénat.
Donc elle est faite sur un consensus Assemblée nationale, Sénat.
Sénat, tout à fait.
Bon, je crois qu'il faut le souligner. Merci Sébastien Pla. On marque une première pause et on se retrouve pour une deuxième partie où on va évoquer alors un peu plus spécifiquement vos actions personnelles, parce qu'il y a le Sénat, puis il y a aussi les sénateurs sur le terrain. À tout de suite.